Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Mel Emmanuel.
C'est l'heure du journal. Bonjour à tous. Le Premier ministre Robert Beugré-Mambé a visité hier le chantier du quatrième pont. Objectif, s'assurer de l'état d'avancement des 7 infrastructures routières. Dans le Tampuy, le maire de la commune de Mans a présidé son premier conseil municipal après sa réélection. Les axes prioritaires de gouvernance ont été présentés. Les détails dans ce journal. Hors de chez nous, le directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest au Niger a été de nouveau mis aux arrêts, sans raison avancée par les autorités nigériennes. Le parcours des titres de la presse ivoirienne, ce sera avec Jean-Mélène Bitti dans ce journal. Enfin, l'ONU devrait repenser la conduite de ses missions de maintien de la paix dans le monde, selon le professeur Guessant Kouadio, professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody. Il est l'invité de la rédaction. Bienvenue sur Radio de la Paix. Projet de transport urbain d'Abidjan. Démarré le 10 août 2018, le quatrième pont d'Abidjan qui relie les communes de Yopougon, d'Adjamé et du Plateau a été visité ce jeudi 2 novembre 2023 par le Premier ministre, chef du gouvernement, pour se rendre compte de l'état d'avancement global des travaux à ce jour. Écoutons le Premier ministre Robert Beugré-Mambé au terme de sa visite.
Le chantier du quatrième pont d'Abidjan est un chantier voulu par le président de la République pour offrir aux Ivoiriens la possibilité de rejoindre leur lieu de travail et leur lieu de domicile dans les meilleures conditions de circulation. En l'état actuel des choses, quand on veut rallier Yopougon à Adjamé, on a près de 112 000 véhicules jour. Donc c'est l'un des trafics les plus lourds à Abidjan. Donc le président de la République a décidé d'offrir cet ouvrage aux Ivoiriens pour que la moitié de ces 112 000 véhicules jour soient transférés sur ce pont. C'est-à-dire que là où on avait des engorgements pour aller de Yopougon à Djamé, on ne devrait plus avoir d'engorgement. C'est pourquoi nous sommes venus visiter ce chantier pour évaluer le délai au bout duquel on peut permettre aux Ivoiriens d'utiliser ce quatrième pont en attendant son inauguration. Alors, le travail que nous avons constaté révèle que du premier pont, du carrefour du premier pont jusqu'à Atikoubé, au niveau de Sebroko, cette zone pourrait être utilisable dans les jours qui viennent, sous réserve que l'entreprise respecte les indications que nous leur avons faites de terminer les embranchements, sorties et accès. On leur a donné un délai, ils le savent. La deuxième chose que nous avons demandé, c'est que la jonction du deuxième pont de Yopougon jusqu'à au premier pont de Yopougon pour aller vers le plateau soit faite le plus rapidement possible.
À l'instant, les propos de Robert Beugré-Mambé rapportés par Jean-Claude Mabéa. Transport routier, la mise en œuvre du décret numéro 2021-860 du 15 décembre 2021 portant réglementation des transports publics de personnes appelées communément VTC est au centre de l'atelier organisé par la Direction générale des transports terrestres et de la circulation et l'autorité de régulation du transport intérieur, ARTI, du 2 au 3 novembre à Abidjan. Pour le directeur de cabinet du ministre des Transports, cet atelier permettra d'assainir le secteur de la pratique des VTC en Côte d'Ivoire. Kone Dioman est au micro de Jean-Claude Mabéa.
L'État de Côte d'Ivoire, après concertation avec les acteurs du secteur, a introduit dans son arsenal juridique le décret numéro 2021-660 du 15 décembre 2021 portant réglementation du transport public particulier de personnes. À la pratique et dans la mise en œuvre de ce décret, il est apparu quelques dysfonctionnements et ou violations de certaines règles par certains acteurs. En vue de clarifier la règle de droit et de favoriser une saine concurrence entre les acteurs pour un transport public de personnes rentable et sûr pour les usagers, la revue de cet arsenal juridique nouvellement introduit et des dispositions réglementaires qui l'accompagnent sont-ils apparus nécessaires afin d'offrir à la Côte d'Ivoire, qui nourrit l'ambition d'une croissance économique soutenue, un système de mobilité à même d'assurer un service de transport routier performant, s'inscrivant dans une perspective de développement socio-économique durable.
Direction la ville de Mans où le conseil municipal a tenu sa première session du présent mandat récemment à l'hôtel communal de la ville en présence des autorités administratives et les forces vives de la commune. À ce conseil, le premier magistrat de la commune de Mans, Aboubacar Fofana, a abordé les grands axes de son deuxième mandat, celui de propulser l'élan de développement de la capitale du Tonkouï. Le compte-rendu de Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkouï.
Occasion pour le premier magistrat de la commune de Mans, Aboubacar Fofana, de dévoiler à cette première session les grands axes de son deuxième mandat au profit de ses administrés.
Le premier point, c'est l'autonomisation des femmes. Nos mamans qui ont un vrai, véritable besoin de soutien et d'accompagnement dans leurs différents projets et surtout dans le financement des activités génératrices de revenus. Ensuite, nous avons l'insertion socio-professionnelle des jeunes qui reste une frange importante de cette ville de Mans qui a besoin donc de soutien et d'accompagnement. Ensuite, le troisième axe, c'est de continuer à doter la ville de Mans d'infrastructures modernes nécessaires et importantes pour continuer donc son développement et aussi son embellissement. Et le quatrième axe, en fait, c'est la solidarité envers donc les populations vulnérables, envers l'ensemble même de la population, à travers donc l'accroissement de nos recettes.
Quant au préfet des régions du Tonkouï, Mwamblignon Célestin, préfet du département de Mans, a fait cette exhortation.
Le travail qui a été fait, il est bon. J'ai noté aussi qu'un acteur particulier a été mis sur les projets de DAP, c'est une très bonne chose. Mais il faut que l'application soit effective. C'est cela qui permettra à la commune de prendre réellement son envol. Par ailleurs, quand on arrive à Mans, ce qui frappe, c'est le désordre urbain. Cela doit être corrigé.
L'idée de cette offre avec cette participante.
Madame Ouba, je tenais à remercier le maire et son équipe. Je crois qu'on a 102 millions et que tout ce qu'on vient de dire se réalise.
Au dit du maire Aboubacar Fofana, plusieurs projets seront réalisés au cours de cette nouvelle mandature avec la Banque mondiale. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Abidjan, capitale de la santé primaire, en l'espace de 3 jours, 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale échangent sur les meilleures expériences dans le financement des soins de santé à partir de toutes les ressources disponibles, tout ceci en tenant compte des défis particuliers auxquels la région est confrontée. Une initiative de l'OMS et de l'UNICEF, Mata Touré nous en dit plus.
Ce forum se présente surtout comme une plateforme pour définir des actions concrètes afin d'accélérer l'amélioration des approches de financement des soins de santé primaire. Jean-François Basse est le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire.
Le renforcement et le financement des soins de santé primaire en tant que fondement de la couverture sanitaire universelle reste plus important que jamais. Ce forum, sans nul doute, y donnera écho afin d'accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle en Afrique de l'Ouest et du Centre et même au-delà.
De son côté, le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture de la maladie universelle a insisté sur l'importance de ces assises Péangou Ndimba.
Les travaux de ces assises nous permettront de trouver des solutions durables pour le renforcement des soins de santé primaire et de la résilience de nos systèmes de santé afin d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Les soins de santé primaire constituent une priorité pour les pays en développement.
Ce forum, qui est organisé au titre de la plateforme de collaboration dénommée Harmonisation pour la santé en Afrique, fait suite à un autre similaire tenu à Kigali, au Rwanda, en mars 2023, qui réunissait 21 pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale.
Filière palmier à huile en Côte d'Ivoire, sur la période d'octobre à décembre 2023, la tonne du régime de palmier à huile Borchamps s'achètera à 65 000 francs CFA et 530 000 francs CFA au raffineur. C'est l'annonce faite le mardi 31 octobre dernier par le ministre de l'Agriculture, Kobelan Kwasi Adjoumani, qui a échangé avec les opérateurs de la filière afin de rapprocher les positions après le bras de fer né entre les producteurs et les raffineurs pour le respect des prix. Comment les producteurs accueillent-ils cet accord et quel engagement prennent-ils pour une accalmie dans la filière palmier à huile? Sur le sujet, écoutons Constantin Kwasi, président de la Fédération nationale des coopératives des planteurs de palmier à huile de Côte d'Ivoire, FENA Copassi.
C'est vrai que les prix qui viennent d'être fixés ne nous arrangent pas en tant que tels.
Ils sont de combien?
65 000 francs pour les producteurs et 530 000 francs pour les usines de la première transformation. Il reste entendu que l'État va prendre des dispositions pour sécuriser les frontières et éviter que lui rentre de manière frauduleuse sur nos marchés pour concurrencer les raffineries. Ces prix-là sont donnés pour 3 mois, octobre, novembre, décembre. Monsieur le ministre d'État a demandé qu'on se retrouve 3 mois après pour faire le point, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas pas marché pour qu'ils puissent avoir des réajustements.
Alors, quelles sont les réelles difficultés rencontrées par le secteur qui font que les prix ne sont pas assez rémunérateurs pour les producteurs de palmiers?
Pour les producteurs de palmiers, c'est d'abord le fait que des prélèvements sont faits pour l'entretien des pistes qui ne sont pas faits. Nous avons un produit périssable qui ne peut pas sortir si l'état des routes sont très dégradés. Et à cet aspect, mais on a voulu paraître au plus précis, c'est-à-dire que régler le problème des prix et puis permettre aux uns aux autres de vendre à partir de février prochain, c'est la période de forte production. Donc déjà, si nous avons des différents stocks par-ci, par-là, et que des solutions ne sont pas trouvées pour régler ces problèmes-là, il va sans dire que nous risquons d'avoir des difficultés au niveau de la pointe qui s'annonce. Donc, pour nous, chacun doit faire l'effort nécessaire et respecter l'engagement qu'il a pris devant l'État de Côte d'Ivoire.
À l'instant, le président de la FENACOPACI, Constantin Kouassi, interrogé par Jean-Claude Comé. L'actualité hors de la Côte d'Ivoire nous mène au Niger, où le directeur national de la BCAO a été de nouveau mis aux arrêts à Niamey mardi dernier. Selon les informations, Maman Lawali Abdourafa est actuellement entre les mains des services de la sécurité extérieure. Les autorités nigériennes n'ont avancé aucune raison pour justifier cette arrestation. C'est la deuxième fois que le directeur local de la BCAO est interpellé depuis le coup d'État du 26 juillet. En toile de fond, la suspension des versements des liquidités de liquidité à l'État du Niger suite aux sanctions économiques à son encontre. Retour en Côte d'Ivoire, c'est l'heure de la revue des titres de la presse ivoirienne avec Jean-Mélène Bitti. Bonjour.
Bonjour Ramani. La rencontre du chef de l'État avec la PDG de France Média Monde Group, la visite de chantier du 4e pont par le Premier ministre, le vote du projet de loi de règlement 2022 par les députés, l'élection du président du PDCI RDA et les dernières nominations au PPACI sont les principales articulations de notre revue des titres de ce vendredi 3 novembre 2023. L'audience du président Ouattara accordé à la PDG de France Média Monde Group est relayé par plusieurs organes de presse, parmi eux le journal Le Matin qui affiche « Le président Ouattara a échangé avec la PDG de France Média Monde Group. » Sur le même sujet, l'avenir écrit « Promotion de la liberté des médias et des journalistes. » La PDG de France Média Monde Group salue l'engagement de Ouattara. Pour clore ce chapitre, la PDG de France Média Monde Group reçue à la présidence hier. Les sujets abordés par Mme Saragosse avec le chef de l'État fait savoir l'intérêt intelligent d'Abidjan. La visite de chantier du 4e pont occupe une place à la une de vos journaux de ce jour. À ce propos, Fraternité Matin titre, 4e pont, Mambé exige l'ouverture avant la fin de l'année. Même son de cloche chez les sœurs ivoiriens qui affichent 4e pont de Yopougon. Mambé annonce l'ouverture partielle avant la fin de l'année. Le journal L'Avenir lui indique que le Premier ministre Mambé met la pression et annonce l'ouverture dans les prochains jours. Et à l'expression de dit 4e pont, les travaux avancent bien. Le vote du projet de loi de règlement 2022 présenté par le ministre des Finances Adama Koulibaly devant la Commission des affaires économiques et financières intéresse aussi les journaux de ce jour. Le Patriote barre à sa une budget de l'État 2022, le projet de loi règlement adopté à la majorité des députés. Au journal Le Matin du Renchérit, projet de loi de règlement relatif au budget 2022, les députés donnent leur quitus à Adama Koulibaly. Le projet de loi de règlement 2022 adopté en commission titre de son côté le journal L'Inter. L'élection à la présidence du PDCI est abondamment traitée par les médias ivoiriens. Sur ce sujet, Le Temps annonce candidature de Thiam à la présidence du PDCI. Deux camps s'affrontent, nos confrères reviennent aussi sur l'appel de Billon. L'Héritage lui annonce bataille pour la présidence du PDCI RDA. Le réseau des cadres PDCI, notre héritage, soutient Tidiane Thiam. Notre Voix de son côté s'interroge. Présidence du PDCI et présidente de la République, Thiam est-il prêt politiquement? Concernant toujours l'élection de la présidente du PDCI, Dernière Heure Monde annonce que le président intérimaire Kopli Boni crée un comité électoral et un collège de recherche de consensus. Le Nouveau Réveil abonde dans le même sens. Voici ceux qui vont organiser le 8e congrès extraordinaire du PDCI. Pour refermer ce chapitre, Le Jour Plus lui prévient, PDCI RDA, tout risque de se gâter en décembre, ce que dit Jean Lubillon. Les dernières nominations au PPACI sont aussi relayées dans les journaux de ce jour. À ce propos, le panafricain ouvre le bal en titrant « Redistribution des cartes au PPACI par Laurent Gbagbo ». Nomination des secrétaires généraux adjoints, la porte-parole du PPACI, Maître Abiba Touré, explique tout dans les colonnes du journal Le Temps. Quant au quotidien d'Abidjan, lui, fait savoir que Laurent Gbagbo fait le grand ménage. Voici ce qui fait l'actualité dans les colonnes de vos journaux de ce jour. Merci à vos journaux et bonne lecture.
Merci Jean-Mélène Bitti, nous vous retrouvons dans l'édition de 8h. Le 20 septembre 2023, à la tribune des Nations Unies, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, plaidait en faveur du retrait progressif de la mission des Nations Unies en RDC, MONUSCO, à partir de décembre 2023. Un retrait à venir qui fait suite au départ, lui forcé, des Nations Unies du Mali avec la fermeture de la MINUSMA. Deux scénarios qui devraient amener à repenser à la conduite des missions onusiennes de maintien de la paix dans le monde, selon professeur Guessant Kouadio, professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. Il est l'invité de la rédaction et il est interrogé par Aoussi Pota.
Professeur Guessant, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
L'on a assisté, il y a de cela quelques temps, au départ forcé de la MINUSPA, la mission donc des Nations Unies au Mali. L'on assiste aussi actuellement à plutôt un départ, on va dire, arrangé entre la République démocratique du Congo et les Nations Unies, donc fermeture prochaine de la MONUSCO. Quelle lecture vous en faites en tant que spécialiste des relations internationales?
Les missions des Nations Unies de ce type sont des opérations de maintien de la paix, c'est-à-dire des forces onusiennes envoyées sur des théâtres de guerre ou de conflits élevés qui s'interpose en principe entre les deux belligérants pour faire en sorte que les deux adversaires ne puissent pas s'affronter directement le temps que la négociation puisse naître, comme on l'a vu ici dans le cas de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Alors pour le cas du Mali, il s'est agi non seulement de s'interposer, mais d'appuyer l'armée malienne à faire face à la rébellion du Nord. De l'autre côté, en RDC, il s'est agi aussi d'appuyer les forces de la RDC à faire face au mouvement rebelle, essentiellement du M23, dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour le cas du Mali, il s'est trouvé que le Mali est le pays qui reçoit. Et en général, c'est à la demande du pays que les forces des Nations Unies se déploient. Et à la suite des incompréhensions, des malentendus, le gouvernement malien, certes anticonstitutionnel, a estimé, pour une raison ou pour une autre, que les forces onusiennes ne faisaient pas l'affaire des populations de l'État malien. Ainsi, le régime armé au pouvoir a donc exigé des Nations Unies que ces forces-là soient retirées. Il s'est agi aussi de la même chose au niveau de la RDC. Je rappelle que c'est depuis la chute du président Mobutu et la guerre civile qui s'en est suivie à partir de 1997 que les premières forces onusiennes, ou la période récente, ont été déployées en RDC, en particulier dans l'Est. Or, la population civile constate que depuis lors, que rien ne change. Si en RDC, c'est à la suite de négociations, je ne pense pas que ça ait été le cas pour le Mali avec le régime militaire.
Professeur Guessant Kouadio, sur ce point, l'on parle de la fermeture prochaine donc de la MONUSCO, et je cite, hein, « un retrait progressif, responsable et durable de la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, MONUSCO ». À l'opposé du côté de la MINUSMA, oui, côté Mali, oui, l'on assistait, oui, à un départ forcé.
Oui.
Alors, deux types de départs différents qui pourraient remettre fondamentalement en cause les raisons d'être de ces missions de paix des Nations Unies dans le monde, selon vous, ou pas?
Oui, mais je dois préciser que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies au Mali et en RDC ne sont pas les premières par le passé. Il y a eu beaucoup d'autres opérations de cette nature. Mais on constate que toutes ces opérations ne sont pas toujours couronnées de succès, malheureusement. Alors, donc, cela montre quelque part les limites des opérations de maintien de la paix. Pour le cas du Mali, comme je l'avais signalé plus haut, c'était de la responsabilité du gouvernement malien. Je dois aussi rappeler, comme je l'ai dit tantôt, que ces opérations de maintien de la paix sont déployées en accord avec le pays hôte. Mais dès l'instant où le régime en place, soit-il anticonstitutionnel, constate qu'il y a des débordements, des ratés, etc., eh bien, le régime en place est en droit d'exiger le retrait des forces onusiennes de son pays.
Avec donc ce qui s'est passé au Mali, ce qui se passe actuellement donc en RDC, il importe pour les Nations Unies de réfléchir, de repenser les opérations de maintien de la paix dans le monde.
Oui, absolument. Pour le cas de notre pays, vous avez vu que c'était assez mitigé. Vous savez que lorsque les Nations Unies ont été déployées, les partisans du camp gouvernemental et les autorités de l'époque avaient estimé que les forces onusiennes et le système des Nations Unies, en gros, avaient pris fait et cause pour la rébellion armée. Alors que de l'autre côté, on estimait que c'était une bonne mission. Donc, selon qu'on se situe d'un côté ou de l'autre, eh bien, l'interprétation change. Dans tous les cas, je précise que toutes les opérations de maintien de la paix des Nations Unies n'ont toujours pas été couronnées de succès, parce qu'il y a eu souvent beaucoup d'insuffisances, des faiblesses, etc. Je pense que c'est quelque chose qui doit être révisé par les Nations Unies elles-mêmes. C'est comme l'organisation elle-même, le Conseil de sécurité, le droit de veto qui appartient à 5 membres sur plus de 193 membres que compte les Nations Unies. Et encore, si les 5 pouvaient se mettre d'accord, ben, il suffit qu'une seule puissance permanente de ces 5-là disent non à un problème et tout le système des Nations Unies se trouve du coup trippé. Donc il n'y a pas que les opérations de maintien de la paix, il y a aussi tous les autres organes de fonctionnement, n'est-ce pas, à réformer pour donner plus de démocratie à cette institution planétaire qui demeure malgré tout, en tout cas, une belle tribu pour les relations internationales.
Professeur Guessan Kouadio, nous vous disons merci.
Merci.
C'était l'invité de la rédaction, professeur Guessan Kouadio, professeur titulaire en histoire des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. C'est avec lui que se referme ce journal dont voici les principaux titres. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a visité hier le chantier du quatrième pont. Objectif, s'assurer de l'état d'avancement de cette infrastructure routière. Dans le Tonkpi, le maire de la commune de Mans a présidé son premier conseil municipal après sa réélection, conseil pendant lequel il a dégagé les axes prioritaires de gouvernance dans sa commune. Et puis, hors de chez nous, le directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest au Niger a été de nouveau mis aux arrêts sans raison avancée par les autorités nigériennes. Merci de rester sur Radio de la Paix, l'information revient à 8h.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.